savoir plus, votre rendez-vous d'information avec le soutien du Conseil départemental du Pas-de-Calais, chaque jeudi de 11h à midi sur Radio Plus.
Il faut savoir.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Savoir Plus, l'émission consacrée à l'actualité départementale. Cette semaine, trois reportages de trois radios associatives différentes dans Savoir Plus. On va tout d'abord retrouver Louise Petit de Banquise FM qui nous parle d'un collectif climactif qui s'est créé à Isberg dans le but de verdir la ville. Reportage.
Nous sommes de plus en plus nombreux à s'inquiéter pour l'avenir de notre planète et c'est comme cela que des mouvements se créent pour la protéger. C'est le cas à Isberg. Plusieurs habitants ont créé le collectif Climactif afin de rendre leur ville plus verte. Un mouvement inspiré par le collectif des 100 communes dont le Béthunois et Bruésie. Nous avons reçu dans nos studios Nansuel et Julie de Criem, membres du collectif Climactif, le 3 septembre dernier.
Donc le collectif Climactif d'Isberg a été créé en février donc 2020. C'est effectivement très récent. Et on s'est créé à l'occasion à la fois des municipales, mais aussi, et ça venait de plus longtemps, de tout le mouvement pour le climat, au fait, qui date de fin 2018. Il y a eu plusieurs manifestations internationales, d'ailleurs. Et suite à ça, il y a, alors à l'échelle de la communauté de communes Béthune-Bruée, un collectif climactif des 100 communes qui s'est créé. Et on est quelques Isbergois et Isbergoises à avoir créé un collectif local Climactif d'Isberg.
Et donc concrètement, Julie, quel est le but de votre collectif ?
Alors en fait, c'est un regroupement citoyen, donc citoyen d'Isberg, qui en fait ont envie d'œuvrer pour une ville plus verte, avec des préoccupations au sujet de l'environnement, du mieux vivre ensemble aussi, d'améliorer le cadre de vie, de développer les déplacements doux.
Alors, qu'est-ce qu'il y a à changer à Isberg ou à améliorer au niveau de l'environnement, par exemple, ou des habitudes des habitants ?
C'est pas forcément à Isberg, en fait. C'est d'une manière générale dans nos sociétés. Et du coup, à Isberg aussi. On pense, par exemple, à des... quand Julie, tout à l'heure, parlait de déplacements doux, à la mise en place de pistes cyclables qui encourageraient à se déplacer à vélo. À l'entretien des voyettes. Il y a beaucoup de voyettes, au fait, dans Isberg. Isberg est une ville étendue et du coup, il y a plein de petites voyettes comme ça qui sont d'ailleurs très agréables à prendre quand on les prend, mais on n'est pas forcément encouragé à les prendre, au fait. Donc voilà, des petites choses comme ça sur les déplacements doux.
On le rappelle, Isberg, oui, c'est étendu parce que c'est un rassemblement de trois communes. À peu près combien d'habitants, vous sauriez nous dire ?
On est autour des 9000 habitants, je crois.
Et donc, les habitants qui ont quand même aussi quelques habitudes, vous le disiez, les pistes cyclables, c'est quand même beaucoup de personnes qui prennent le vélo quotidiennement. Isberg, ça devient une habitude de plus en plus et ce sont des pistes cyclables qui manquent actuellement, c'est ça ?
Oui, je pense qu'à Isberg, le vélo est quand même dans notre ADN et disparaît petit à petit si on laisse trop l'insécurité en fait à vélo s'installer. Et donc... installer de vraies pistes cyclables, de vrais chemins avec la possibilité de déplacement doux. Alors ça peut être aussi des trottinettes ou autre, tout ce qui est déplacement doux. Je pense que ça encouragerait ceux qui veulent aussi, mais qui ne le font pas par crainte, les citoyens à prendre leur vélo. De fait, ça limiterait aussi les voitures. Après, c'est pourquoi pas une réaction en chaîne.
Oui, parce qu'il y a le Grand Prix d'Isberg qui est bien connu, mais c'est vrai que même pour les particuliers, les habitants, ça devient une habitude qu'il ne faut pas perdre. Et d'ailleurs, comment vous y prenez pour mettre en place tous ces projets ? Est-ce que vous avez déjà rencontré la ville, le maire ?
Pendant la campagne municipale, on avait interpellé, envoyé des documents aux deux listes, au fait. Et depuis, depuis il y a eu, entre-temps, il y a eu le confinement qui n'a pas forcément facilité les choses. Puis les élections et effectivement, la semaine dernière, nous avons rencontré Monsieur le maire, Monsieur Julie qui était.
Bah oui, surtout que on a été assez ravis de voir que dans son discours, il avait placé Isberg Ville Verte en deuxième point. Et donc, on pense que on peut que être force de proposition, quoi. Bon allié, en fait, pour aller dans ce sens-là, quoi.
Et parmi les autres projets à venir, est-ce que vous avez d'autres idées en tête à part les pistes cyclables par exemple. Je pense notamment au parc à Iceberg, il y a pas mal de parcs qu'on peut faire vivre davantage. Est-ce que vous avez des idées?
On a la chance d'avoir le parc des Cités, qui est vraiment très agréable. Enfin, il faut attendre que les arbres poussent encore pour avoir plus d'ombre. Mais voilà, c'est un parc vraiment qui est très agréable et très utilisé, au fait. Les gens y passent, le traversent, les gens y restent, y jouent, ils lisent, ils font des pique-niques, etc. Mais il y a d'autres parcs et il y a d'autres espaces verts qui sont beaucoup moins mis en valeur et aussi beaucoup moins utilisés. Et donc c'est l'occasion pour nous d'y organiser des animations pour les valoriser, du land art, du yoga, voilà.
Un petit rappel, qu'est-ce que c'est le land art ?
Alors le land art, en fait, c'est une création d'œuvres éphémères à partir d'objets naturels, de matériaux naturels.
Donc vous proposez ça spontanément durant l'année, ces événements. Vous avez aussi le projet, je crois, de remettre au goût du jour le skate.
Oui, ben il y a des skateurs parmi les membres du collectif. Et puis il suffit de sortir et de regarder de regarder par la fenêtre pour se rendre compte qu'au fait le déplacement en skateboard est de plus en plus courant. Et c'est tant mieux, au fait. Hein, et donc, du coup, l'idée, c'est de faire une ou des séances, on verra, d'initiation au skate.
Et peut-être aussi apporter un peu plus de verdure, par exemple, organiser des plantations d'arbres ou des jardins, mettre en place des jardins partagés, c'est ça ?
Ben alors, il existe déjà au moins un jardin partagé qui est géré par la MJEP, mais... Mais oui, l'idée, c'est vraiment, je pense que Julie, tu le disais tout à l'heure, c'est plus de verre et moins de béton, et plus de gazon, moins de béton, et vraiment valoriser tout ce qui est, tous les espaces, c'est difficile de dire naturel, mais au moins les espaces verts dans la ville, de pouvoir en profiter, de pouvoir se les réapproprier d'une manière commune, par exemple en y semant des graines de fleurs, pour simplement non seulement améliorer, mais aussi se sentir bien.
La période si particulière que nous vivons et le confinement ont peut-être aussi une influence sur nos habitudes envers l'environnement et la biodiversité. Julie Decriem et Nancy Huel, membres du collectif Climactif d'Iceberg, nous donnent leur point de vue et nous expliquent comment devenir bénévole.
J'imagine que le masque qu'on est obligé d'accrocher sur son visage tous les jours sert un peu d'alerte pour montrer qu'il est quand même temps de réagir et de lutter un peu contre le réchauffement climatique. Alors, ça veut pas dire tout révolutionner, hein. On n'arrive pas là avec des capes en se disant « allez, on va tout changer ». Mais je pense que justement, ça peut passer par des tellement petites choses qui sont faciles à mettre en place, qui ramène aussi non seulement qui lutte contre des problèmes climatiques, mais qui lutte aussi contre l'isolement, parce que nous on propose des choses où à chaque fois les citoyens, les habitants d'Iceberg seront dans une énergie d'échange, de partage, et c'est ça aussi qui est important.
Et à côté de ça, est-ce que vous observez des choses plus négatives avec notamment ce port du masque, des personnes qui prennent des mauvaises habitudes en laissant un masque traîner, notamment à Iceberg ou aux alentours? Est-ce que vous avez observé des choses?
Je crois que ça devient, avec le mégot de cigarette, l'un des déchets les plus répandus, malheureusement, dans nos villes. Encore une fois, comme tu disais, non, c'est pas seulement à Iceberg, c'est aussi dans les autres villes. Et effectivement, bon, il faut à un moment se retrousser les manches et se dire que c'est à nous d'agir et qu'il ne faut pas laisser ça aux futures générations.
Donc c'est là aussi où vous voulez peut-être organiser quelque chose pour sensibiliser les habitants et même les autres habitants d'autres communes. Vous comptez aussi collaborer avec d'autres associations comme la MJEP, par exemple, la Maison de la Jeunesse d'Iceberg, c'est ça ?
Oui, au fait, le collectif s'est créé... avec des habitants plus ou moins récents d'Iceberg, hein, ça va de 6 mois à 43 ans au moins. On n'arrive pas, comme le disait Julie, en disant voilà, les bons c'est nous et Iceberg c'est pas bien, c'est pas du tout notre façon de faire, ni de voir, ni de penser les choses. Il y a des choses qui se font à Iceberg et il y a des super chouettes choses qui se font. Iceberg, au niveau associatif, c'est une ville vraiment très dynamique. nous, notre idée, c'est vraiment toujours dans la promotion de l'environnement, des espaces communs et du vivre ensemble. C'est de travailler avec toutes les associations qui existent déjà, qu'elles soient sportives, qu'elles soient culturelles ou sociales ou autres, au fait, peu importe. Mais par exemple, bon, c'est quelque chose qu'on n'a pas pu mettre en place avec la MJEP, mais c'était des ateliers de fabrication de on appelle ça des bombes à graines, donc des petites boules avec de l'argile, du terreau et puis des graines de fleurs. Que les clubs de marche, par exemple, qu'on aurait invité les clubs de marche ou marcher en club ou sans club, peu importe, mais de marcher et puis de lancer ces bombes dans la nature, quoi, au fait. C'est, donc voilà, des petites choses comme ça qui peuvent être faites et que j'espère on va faire.
Si vous souhaitez devenir bénévole dans le Béthunois ou Brouésie, rendez-vous sur la page Facebook du collectif des 100 communes. Et si vous êtes à Iceberg, vous pouvez vous adresser au collectif Climactif via leur adresse mail climat-iceberg@riseup.net. Un reportage réalisé le 3 septembre 2020 par Louise Petit pour Banquise FM.
Une émission proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France. Une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.
Voilà pour ce reportage signé donc Louise Petit de Banquise FM. On va présent revenir d'en savoir plus sur les journées du patrimoine. Nicolas Buignet de Radio PFM à Arras s'est rendu au sein de l'abbaye de Saint-Va qu'il vous propose de découvrir ou de redécouvrir.
Donc là, c'est les journées du patrimoine à Arras. On est samedi 19 septembre et donc on va faire un petit tour du côté de l'abbaye Saint-Va. On va faire la visite, le musée de Fontencomble. Allez, on y va.
Bonne visite à vous.
Merci.
Alors on va démarrer. On est aujourd'hui donc sur une visite qui va vous permettre de découvrir l'abbaye Saint-Va de Fontencomble. L'idée, c'est de vous faire visiter des espaces qui sont aujourd'hui fermés au public, mais également de faire une histoire de l'abbaye de Fontencomble, puisque l'idée, c'est aussi de retracer les presque 1500 ans qui nous séparent aujourd'hui des premières implantations monastiques à l'abbaye Saint-Va. Avant de faire le tour du bâtiment, ce que je vous propose, c'est qu'on aille se poser un petit peu devant le plan relief de la ville pour vous expliquer un peu pourquoi cette abbaye, aujourd'hui, qui est au cœur de la ville, elle est à la fois au cœur de la ville physiquement, mais elle est aussi au cœur de la ville historiquement, puisque sans l'abbaye, peut-être que la ville d'Arras ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Donc je vous propose c'est qu'on aille vers la salle du plan relief, et puis qu'on commence à voyager dans le temps, et à se retrouver autour de l'an 500, quand Saint-Va arrive à Arras. Moi, je suis Laurent Viard, je suis directeur en charge du patrimoine, de l'archéologie et du tourisme à la ville d'Arras.
Donc aujourd'hui, vous êtes de service, vous animez la visite guidée de l'abbaye Saint-Va de Fontencomble. C'est un plaisir pour vous. Comment vous voyez cette journée?
Oh, oui. C'est un vrai plaisir. Ça fait maintenant presque 20 ans que je travaille à l'abbaye Saint-Va. J'ai été directeur des médiathèques pendant 17 ans. Et c'est toujours un plaisir que de faire découvrir ce magnifique monument qui est emblématique d'Arras aux habitants et de pouvoir leur présenter cette histoire qui est presque une histoire deux fois millénaire, donc voilà, c'est un vrai plaisir. Saint-Va avait, selon la légende, fait construire dans cette zone qui était une zone de marais un tout petit oratoire où il venait prier, et un siècle après la mort de Saint-Va, Saint-Aubert, évêque de Cambrai, qui visite la ville d'Arras, aurait eu en vision un songe montrant un ange dessinant le plan d'une abbaye à l'endroit où Saint-Va avait créé son petit oratoire. Alors les fouilles archéologiques ont permis de montrer qu'à cette époque, dans ces zones-là, il y avait certainement des vestiges d'occupation gallo-romaine, notamment peut-être une villa ou quelque chose, et que Saint-Va en fait serait venu s'installer dans des vestiges qui déjà remontaient à l'époque romaine. Mais aujourd'hui, on n'a vraiment que des fragments de cette présence gallo-romaine sur cet espace-là, ce qui fait que c'est très difficile d'imaginer ce que ça pouvait être à l'époque de Saint-Va.
Toujours est-il que Saint-Aubert décide de donner cette église, cette terre au moine de Saint-Va, qui développe une abbaie à partir des années 660-670. L'abbaye va avoir une très très grosse donation foncière, puisque un des rois de Neustrie, donc les terres du nord de l'ancien empire franc, va venir se faire enterrer dans l'abbaye Saint-Va, Thierry III avec sa femme Doda, et va donner quasiment l'intégralité des terres qui sont aujourd'hui la ville d'Arras aux moines de Saint-Va. Donc il faut vous imaginer cette petite abbaye avec deux ou trois églises en bois au milieu de marais, mais qui d'un seul coup devient propriétaire de quasiment toutes les propriétés foncières, tous les terrains autour de cette zone, et qui vont tout à tout compte fait prospérer, se développer, au gré des incendies, au gré des invasions, au gré des changements, cette église, elle va monter en puissance. Au IXe siècle, au retour des invasions barbares, les moines vont décider de faire une première fortification autour de leur abbaye. Savoir que toute cette zone de la cité romaine, elle est complètement abandonnée, puisque l'évêque est parti à Cambrai et qu'il n'y a plus de pouvoir. Et donc, petit à petit, les habitants vont venir se mettre sous la protection de l'abbaye. Et donc, d'un premier fossé qui fait, en gros, le tour de l'abbaye, qui est ici. Alors, pour vous donner une idée de ce que c'était, c'est aujourd'hui rue Paul Doumer, rue Albert Ier, rue des Teinturiers, rue Méolan. Donc, un premier fossé fortifié autour de l'abbaye. Les moines, au Xe siècle, vont créer un deuxième fossé, une deuxième fortification qui va englober la place du théâtre et qui va aller jusqu'à la place des héros. Et donc, on a une deuxième fortification qui vient s'étendre et on a la naissance d'un premier bourg monastique autour de l'abbaye Saint-Va, où on va trouver des potiers, des marchands, des commerçants qui vont venir se développer autour de cette abbaye Saint-Va. Et puis, à partir du XIe siècle, la ville va s'étoffer, sachant qu'aujourd'hui, tous les quartiers Méolan-Saint-Géry sont construits sur ce qui était les vergers de l'abbaye Saint-Va. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que jusqu'à la Révolution française, toute la ville reste sous la domination de l'abbaye, parce que comme ces territoires lui appartenaient, ces terrains lui appartenaient, les gens sont redevables aux moines de taxes, d'impôts, jusqu'à la Révolution française. Et donc cette abbaye, elle a une richesse, puisqu'elle a des terres à Arras, mais elle a des terres un peu partout dans le département. Elle a aussi des pêches dans la Manche, Saint-Va-la-Hougue, du côté de Cherbourg. Et bien c'est une possession de l'abbaye Saint-Va. Donc il faut vous imaginer que ces moines avaient quand même une richesse très très forte, et qu'ils avaient un pouvoir très fort sur la ville, puisque par exemple, pour ouvrir une brasserie, pour ouvrir un estaminet, c'est les moines qui donnent l'autorisation d'ouvrir l'estaminet, et c'est les moines qui fixent le prix des boissons. Donc vous voyez la puissance qu'ils pouvaient avoir.
Suite de la visite de l'abbaye de Fontencomble, organisée lors des journées du patrimoine à Arras.
Quand on parle du riche patrimoine arrageois aux habitants, ils nous répondent souvent le beffroi, les places. Peu parlent de cette abbaye qui est pourtant un trésor du patrimoine local et national.
Oui, c'est un trésor du patrimoine national et même au-delà. Hein. C'est le plus grand ensemble monastique du XVIIIe de style classique en France. C'est un de ces rares établissements monastiques qui sera complètement reconstruit au XVIIIe siècle dans le style classique. Et c'est un monument emblématique d'Arras, à la fois parce que c'est le monument qui crée la ville d'Arras et c'est le monument qui a régi tout compte fait l'histoire de la ville d'Arras pendant des siècles jusqu'à la Révolution française. C'est un monument important qui est lié de toute manière, de manière très, très forte, à l'histoire des places, à l'histoire du beffroi, et qu'on peut aujourd'hui, qui est un monument incontournable de la ville. Alors, je vais vous emmener voir un lieu qui est un lieu assez intéressant de l'abbaye, qui est le dessus de la salle des mains. C'est un souci économique, c'est aussi derrière un vrai parti pris de la reconstruction d'après la Première Guerre mondiale. Quand vous allez dans les greniers de la cathédrale de Reims, vous avez également le même système de charpente en béton. Les greniers de la cathédrale Notre-Dame d'Arras sont également des grandes charpentes en béton. Voilà, vous faites juste attention en montant l'escalier, la poutre est très près des marches, donc évitez de vous cogner dessus. Espace caché de l'abbaye. Tout à l'heure, vous étiez dans la salle des mets.
en dessous. Et je vous parlais de la grande verrière zénitale. Et voilà, là on est sous les toits, avec cette grande verrière qui éclaire aujourd'hui donc les mains de Notre-Dame de Paris qui sont en dessous. Alors cette verrière, elle est recréée par Pierre Paquet pour la galerie de peinture et elle a été révisée dans les années 90 par l'État au moment où on a refait complètement la salle des grandes salles de peinture. Mais vous voyez, la reconstruction, on est sur du béton armé, on l'a fait faire. Et pour garder l'éclairage, on met des grands blocs de verre sur la fêtière du toit qui aujourd'hui sont plus du tout imperméables. Ça pose un vrai problème d'infiltration d'eau, d'où cette grande bâche qui a fini par être tendue en attendant qu'il y ait une révision complète du toit sur le bâtiment. Voilà, je vous laisse redescendre en faisant très attention à votre tête parce que la poutre elle est vraiment très proche des escaliers dans la descente. Ça m'embêterait.
Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de cette visite ?
Eh bien, moi, j'ai été très intéressée parce que je viens d'arriver dans la ville et c'était une découverte. J'adore ce bâtiment, j'adore les vieilles pierres et c'était un enchantement.
Un des projets autour de la réfection de cette abbaye, c'est d'y inclure un hôtel de luxe. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée ?
Oh non, je trouve que c'est une très mauvaise idée, en fait. Non, franchement, non. Non, catégorique, un non catégorique. Non, non, je trouve que ça doit rester en l'état, un lieu de culture, de beauté, mais pas mêlé l'hôtel de luxe. Non, non, non. J'espère que ce projet n'aboutira pas.
Aujourd'hui, il y a un projet, il y a beaucoup de discussions autour de ce projet d'inclusion d'hôtel. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Alors, moi, je ne pourrais pas dire ce que j'en pense, puisque étant technicien de la ville d'Arras, vous comprenez bien que j'ai une obligation de réserve sur le sujet. Donc voilà, je pense qu'il y a un vrai besoin de retravailler cette abbaye, mais voilà, je pense qu'il y a, c'est pas à moi de vous dire quel positionnement prendre sur l'abbaye.
On remercie à nouveau Laurent Viard, directeur en charge du patrimoine de l'archéologie du tourisme à la ville d'Arras. Il animait cette visite l'abbaye de Fontencomble, organisée dans le cadre des Journées du patrimoine, samedi 19 septembre dernier. Ce sujet a été réalisé par Nico de Radio PFM.
Cette émission est proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France, une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.
On retrouve tout de suite eh bien, le dernier reportage de la matinée. Le mois prochain, ce sera le mois de l'ESS, l'économie sociale et solidaire. L'occasion de revenir sur une initiative, la création du toit commun à Lens, qui se veut être la vitrine de cette économie dans le bassin minier. En région Hauts-de-France, d'après une étude de l'INSEE qui date de 2016, l'économie sociale et solidaire représente un peu plus d'un emploi sur 10. Ce sont très majoritairement des associations dans le secteur éducatif, sanitaire et social qui emploient ces salariés. Mais si l'emploi progresse, il augmente plus lentement que dans d'autres régions et surtout son implantation locale est très hétérogène, très présent par exemple dans l'arrondissement de Berck-sur-Mer, beaucoup moins sur Lens. Dans le bassin minier, plusieurs acteurs de cette économie, convaincus de son utilité et de son potentiel et qui voulaient que ça avance, se sont regroupés au sein de l'Association pour le développement de l'économie sociale et solidaire dans le bassin minier. Ils ont, par le biais d'une SCI qu'ils ont créée, racheté un bâtiment à Lens afin de créer le toit commun, maison de l'économie sociale et solidaire. Les explications de Laurence Zaderatsky, membre du bureau collégial de cette association.
Alors l'association, au départ, il y a 2 ans, c'est des personnes qui se sont regroupées donc sur l'Association pour le développement de l'économie sociale et solidaire dans le bassin minier du Pas-de-Calais. Le titre était un petit peu long, mais en tous les cas, c'était une volonté commune de se dire que l'économie sociale et solidaire, on en parle. Parfois, on en parle comme une économie de réparation, une économie de niche. Et pour nous, c'est vraiment pas ce sens-là qu'on veut à l'économie sociale et solidaire, mais c'est vraiment son développement. Et puis que le sens, la valeur humaine, la solidarité, l'idée que l'économie soit au service de l'humain et d'un territoire, c'est ça qui nous a donné envie de nous regrouper. On ne part pas de rien, parce que dans ce territoire, il y a déjà, au travers un comité territorial de l'économie sociale et solidaire, donc pour certains, on est des acteurs, entre guillemets, de longue date de l'économie sociale et solidaire. Ça passe d'artisans du monde par CLIS 21, Culture et Liberté, la Ligue de l'Enseignement, des AMAP, voilà, partenaires intérim, Émergence 62 qui aide donc des gens qui ont envie de créer leur entreprise. Voilà, c'est une mutualisation d'énergie, d'envie, de gens qui ont développé des expériences. Et puis des petits nouveaux qui arrivent et qui ont des idées de se dire l'économie, moi j'ai envie d'en faire, je veux en vivre, voilà, économie au sens classique du terme, mais j'ai envie que c'est du sens et de la valeur pour le territoire et pour moi. Donc ils se retrouvent dans ce qu'on est en train de porter là aujourd'hui pour ce projet de toit commun.
L'association pour le développement de l'ESS dans le bassin minier possède en elle-même un caractère particulier. Pas de président, de secrétaire et de trésorier, c'est un bureau collégial sans aucune hiérarchie. Les explications de Marcel Delcroix, membre du bureau.
C'est un fonctionnement collégial. Déjà pour l'association de développement donc de l'économie sociale et solidaire du bassin minier, qui a été créée il y a 2 ans, ça a été compliqué à faire comprendre à la préfecture qu'il n'y avait pas un président, mais il y avait un bureau collégial qui gérait l'association. On peut le faire, mais ils n'avaient pas l'habitude de voir ça, donc du coup, fallait faire avancer dans les idées, quoi.
Le futur toit commun se situe dans la rue René-Lannoy, une des artères commerçantes de la ville de Lens. L'investissement est important, 900 000 euros, travaux compris, sans aucune subvention. Laurence Zaderatsky nous détaille les différentes phases du projet.
C'est les travaux, d'abord. Voilà, vous avez visité les locaux, donc vous voyez qu'il y a encore un peu de travail à réaliser. L'idée, c'est aussi de travailler de façon à faire travailler les acteurs de la rénovation, de la réhabilitation des bâtiments, aussi eux avec les démarches de l'économie sociale et solidaire. Ça, c'est la phase première, c'est de rendre accueillante cette maison de l'économie sociale et solidaire. Donc ça va être, voilà, ça va nous occuper tout de suite. L'idée, c'est une ouverture au printemps 2021. Alors avec les contraintes actuelles qu'on a autour des protocoles sanitaires, on va encore en avoir là aujourd'hui. Et puis dans une première phase, il y aura donc déjà des espaces de coworking, il y aura le magasin partagé, il y aura le bar, alors avec une petite activité restauration sur réservation, avec les amis de l'association Elfouad, une vingtaine de places, où il donc faudra réserver autour de 2 plats, dont un végétarien, puisque dans l'économie sociale et solidaire, la dimension environnement fait partie bien évidemment de nos préoccupations. Il y aura aussi des possibilités de faire des réunions et puis de rencontrer, d'être un centre ressources finalement pour rencontrer, si on a un projet autour de l'économie sociale et solidaire, rencontrer des gens qui pourront accompagner ces porteurs de projets et ces porteuses de projets. Ça pourra être aussi, l'idée c'est d'organiser des conférences débats, des conférences gesticulées, de faire événements en tous les cas de façon régulière autour de l'économie sociale et solidaire. Je pense que ça sera le premier temps. On aura donc, une fois les travaux finis, 800 mètres carrés à disposition des habitants du territoire pour l'économie sociale et solidaire. Et en 2022, on aura une deuxième phase qui, à terme, donc dans 3 ans, ce seront 1000 mètres carrés qui vont donner de la visibilité à cette économie qui a une revendication d'humanisme et de solidarité.
Donc ça veut dire des bureaux pour certaines de ces sociétés, de ces entreprises de l'économie sociale et solidaire, par exemple, des espaces de coworking, etc.
Oui, tout à fait. Alors, il y aura des associations et des entreprises qui seront là à demeure. Je pense à Partenaires Intérim, je pense à la FEVE, voilà, pour dans un premier temps. Et puis après, toute personne qui a besoin à un moment de se poser parce qu'il y a besoin de réunion, parce qu'il y a besoin de rencontrer des partenaires, par exemple, pour monter un projet. On ouvrira nos portes, bien évidemment. La condition, entre guillemets, que l'on fixe pour les gens qui seront, à partir du moment où on entre dans la maison, on devient acteur et actrice de cette maison, à partir donc de valeurs qui devront être quelque part adhérer à une certaine idée de l'économie sociale et solidaire. Donc ça sera ça le contrat qu'on peut avoir avec les gens qui viendront dans cette maison.
Une véritable charte qui insiste sur les valeurs d'égalité hommes-femmes, sur la rémunération des dirigeants d'entreprise qui doit être limitée ou encore sur l'antiracisme. Laurence Zaderatsky.
L'idée, c'est d'aller au-delà de la fameuse loi de l'ESS de 2014, dite loi Hamon. Les labellisations ESUS, pour nous, ne sont pas suffisantes, ne vont pas assez loin dans l'exigence autour de l'environnement, l'économie au service de l'humain.
Alors, si vous pouviez m'expliquer, labellisation ESUS.
Entreprise solidaire d'utilité sociale.
Et donc, les marqueurs pour nous dans cette charte d'éthique, c'est de dire qu'on veut une société inclusive où chacun est reconnu et attentif à la place des autres. On s'engage à lutter contre le racisme, contre toute forme de ségrégation, de discrimination envers toutes et tous, et en particulier les minorités visibles. Le toit commun promeut un monde sans frontières, quelle qu'elle soit. Il veille à ce que ce soit un lieu ouvert à toutes et tous, accueillant, quel que soit son statut, sa condition sociale. Le toit commun, c'est aussi la promotion de la laïcité. Alors la laïcité, elle n'interdit pas. C'est le respect de la liberté d'expression, la liberté aussi de croire ou de ne pas croire. Voilà, c'est cette idée-là qui sera dans cette maison. Pas de prosélytisme, bien évidemment, quel qu'il soit. Le toit commun, c'est la coopération. Ça, c'est la base pour nous. Le toit commun, c'est aussi la transparence sur son fonctionnement, sur son financement. On l'a évoqué précédemment. Et puis, le toit commun, c'est... On sera très attentif sur notre empreinte écologique. Il y a un vrai enjeu que ce soit quelque chose qui soit intégré au quotidien et que ça devienne des automatismes sans qu'on ait plus besoin d'y réfléchir et de le penser. Et puis, il y aura toujours des innovations à trouver. Donc, c'est ce cadre-là qu'on a fixé pour... et ce sera donc les membres de l'association qui seront aussi vigilants et attentifs à ce que ces compétences-là et ces valeurs-là soient bien à l'œuvre.
Comment votre indépendance va-t-elle être garantie ?
Alors, il y a plusieurs choses. Il y a un système de loyer qui viendra garantir le fait, parce que pour acheter cette maison, il y a eu un emprunt de fait. Pour couvrir cet emprunt, il y a donc des loyers qui sont payés par un certain nombre de structures. Les espaces de coworking, il y aura aussi là une rentrée en recette. En recette, on aura aussi l'activité du bar avec la convivialité. Et puis, on fera aussi appel, bien évidemment, au financement qu'on appelle aujourd'hui participatif pour plus largement.
Et sur le plan politique ?
Alors pour nous, on est là-dessus, à partir du moment où il y a le respect des valeurs précédemment données, on n'est pas là pour être un parti politique, on est vraiment acteur de l'économie sociale et solidaire. Donc les idées politiques, on en a forcément, puisque les valeurs que je vous annonçais sont éminemment politiques. Par contre, si on parle de politique politicienne, ça c'est clair que ça n'aura pas sa place ici.
Poser les questions surtout par rapport au territoire, aux agglomérations, etc., qui peuvent également participer à ces structures. Et j'ai entendu parler tout à l'heure d'une limitation de 5% au niveau du pouvoir qu'on pourrait avoir dans cette structure.
Cette structure, son fonctionnement, il régit sur le statut juridique de la société coopérative d'intérêt collectif, qui prévoit très clairement que les pouvoirs publics peuvent être présents à hauteur maximum de 5%. Donc voilà, on n'est pas absolument contre les politiques, puisque de toute façon les politiques font le commun, et c'est important de faire du commun, mais dans cette maison, pour son fonctionnement, on s'est fixé cette règle-là.
L'ambition à terme, c'est quoi ?
L'ambition, c'est déjà de donner une visibilité vraiment à l'économie sociale et solidaire. Ça, c'est vraiment l'ambition première, que chaque habitante et habitant de ce territoire se dise que l'économie sociale et solidaire, ça peut être son projet de vie, soit en termes de sa propre activité économique, soit en termes d'engagement citoyen, parce que c'est un engagement citoyen extrêmement fort. Et puis un enjeu de démocratie pour ce territoire, parce que l'économie sociale et solidaire, elle dit chacun compte pour un. Et ça, je pense que c'est une belle ambition pour notre territoire.
Marcel Delcroix, par ailleurs président de l'association Émergence 62, n'a pas hésité une seconde avant de rejoindre l'aventure du toit commun.
Pour moi, c'est quasi une logique, puisqu'on accompagne des projets dans l'économie sociale et solidaire. Il y a une dynamique qui se crée pour être plus visible au niveau de la cale avec le toit commun, cale et CAC. Et donc, du coup, je dirais presque que c'est presque aberrant si je ne suis pas présent, quoi. C'est, puisque ça fait partie de mon réseau, ça fait partie du réseau d'émergence de notre activité. Et donc, je serai un peu l'animateur sur la communauté de l'accompagnement des projets ESS en essayant de faire travailler tous les partenaires qui sont dans le réseau et qui sont plus associés. Voilà, si un importeur de projet qui est intéressé par une coopérative d'activité et d'emploi, ben on l'orientera là. Si c'est une coopérative type SCOP, on verra avec l'URSCOP. Enfin voilà, comme on travaille déjà maintenant, mais dans un lieu qui s'affiche quoi maintenant.
Pour plus d'infos, rendez-vous sur le site letoitcommun.org. C'était un sujet de Jean-Philippe Planck de Radio Plus.
Cette émission est proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France, une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.
Dans quelques instants, vous allez retrouver l'actualité départementale. Pour l'heure, c'est le nouveau Alain Souchon sur Radio Plus, jaloux du soleil.
Jaloux du soleil. Jaloux du soleil. Impression, soleil levant. Un frisson à l'éveil du vent. Les heures tournant, colorant la cathédrale de Rouen. À Paris, il lèche les toits. Marrakech, El Koutoubia. Jaloux du soleil. Jaloux du soleil. Jaloux du soleil. Les bimbo toc, les filles belles, les black blocs et les prix Nobel. Comme le roi soleil Louis, il croit que tout le monde est à lui. Mais le pire, c'est l'empire qu'il a sur Malora. Il n'a de cesse qu'il caresse Laura Malora. Jaloux du soleil. Jaloux du soleil. Jaloux du soleil. Jaloux du soleil. Moi j'attends dans le couloir. Moi j'attends son bon vouloir. Et lui soleil malhonnête, il rentre par la fenêtre de Laura adorable. Allongé sur son drap bleu. Jaloux du soleil. 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 soleil. Jamais eu mon âge, t'as travaillé trop dur pour ça. Toutes les heures du jour à l'usine, à l'entrée du village, le soir de jardin à la fois. Et tout ça pour que tes enfants mangent, ça je le sais bien, j'étais là. S'en prenait du courage pour se lever à ces heures-là, bien avant le jour, et partir dans le pâle éclairage, à main nue sur le guidon froid. Et tout ça pour que tes enfants dorment, ça je le sais bien, j'étais là. J'aurais voulu te ressembler, je le jure, mais voilà, suffit pas de vouloir, c'était pas dans ma nature. T'as vraiment dû t'interroger, je suis sûr. Un jour, j'ai croisé une guitare, j'ai vécu comme on s'amuse, j'avais les pieds sur terre. Et j'étais tout le contraire. Pas dit je t'aime, on s'est pas serré dans les bras. Concernant l'amour, il fallait tout deviner nous-mêmes. On nous laissait grandir comme ça. Et tu vois, on a grandi quand même. Je le sais bien, j'étais là. D'avoir eu tant de chance, quelquefois je me sens fautif. Je regarde autour, ma maison est immense et mon jardin décoratif. Et je sais que depuis ton lointain au-delà, t'as gardé un œil sur moi. J'aurais voulu te ressembler, je le jure, mais voilà, suffit pas de vouloir, c'était pas dans ma nature. T'as vraiment dû t'interroger, je suis sûr. Un jour, j'ai croisé une guitare, j'ai vécu comme on s'amuse. T'avais les pieds sur terre, et j'étais tout le contraire.
À l'instant, Francis Cabrel, son dernier single « Te ressembler » sur Radio Plus. On passe à l'actualité du département. Alors, ce n'est pas dans les habitudes de cette émission, mais la situation est assez exceptionnelle pour qu'on en parle. Attention, si vous comptez emprunter l'autoroute A21 et la départementale 301 actuellement, il y a de très grosses difficultés de circulation. Julien vous en a parlé ce matin dans la matinale plus, suite à un accident survenu entre deux camions sur la départementale 301, juste avant la sortie Saint-Angoël-Bouvigny-Boyefle, dans le sens Lens-Bruay-Labussière. Ce sont deux camions qui sont entrés en collision sans faire de blessés heureusement. L'un d'eux a perdu son chargement sur la chaussée. Une benne s'est ouverte et s'est vidée. L'autre camion transportait lui des graviers qui se sont aussi déversés sur la chaussée. D'après nos confrères de la Voix du Nord, un accident qui provoque évidemment beaucoup de difficultés encore actuellement. Provisoirement, la circulation a donc été réduite à une voie dans le sens Bruay-Lens, le temps de dégager les gravats et de sécuriser les lieux. Une voie de circulation vient d'être dégagée dans le sens Lens-Bruay pour évacuer évidemment les véhicules coincés derrière l'accident. Et puis, la départementale 301 est donc coupée à hauteur d'Aix-Noulette, à la jonction entre l'A21 et la départementale 301. Le département a mis en place une déviation. Tous les usagers circulant dans le sens Lens-Bruay. Ah, eh bien, nous avons eu un petit problème de coupure de courant. Enfin, pour l'instant, tout est revenu. En tous les cas, tant mieux. Bon, voilà, ce sont des choses qui arrivent. Donc, je vous disais que des déviations ont été mises en place et qu'il faut effectivement éviter le secteur si vous le pouvez. Allez, on va retrouver la suite de l'actualité départementale d'ici quelques minutes. Tout de suite, c'est Eros Ramazzotti que vous allez retrouver.
Quante scuse ho inventato io. Fare sempre a modo mio, evitare così una storia importante, non volevo così ritrovarmi già grande. Quanta gente ho incontrato io, quante storie, quante compagnie, ora voglio di più, una storia importante, quello che sei tu, forse sei tu.
We'll be right back. l'instant, Eros Ramazzotti avec Una Storia Importante. Voilà, bon, je ne la prononce pas du tout à l'italienne. Hein. Je n'ai jamais fait d'italien de ma vie. Donc voilà, ça n'a pas changé tout de suite. Je suis désolé pour Giovanni, notamment, voilà, qui doit effectivement s'arracher les cheveux en m'entendant, mais tant pis. Voilà, je fais ce que je peux. Donc, on va reparler eh bien, de l'actualité du département, si on y arrive, en tous les cas. Donc, je vous disais, hein, je vous ai parlé tout à l'heure de cet accident donc sur la départementale 301. Donc voilà, on va tout de suite parler à présent du conseil départemental du Pas-de-Calais qui va expérimenter le salariat des médecins sur 3 territoires. Ce sont 6 médecins qui vont être embauchés au total. La semaine prochaine, nous devrions avoir en interview par téléphone la conseillère départementale en charge de la santé, Maryse Coé. Le député des Pyrénées-Atlantiques, Jean Lassalle, qui fut candidat aux élections présidentielles, s'est rendu hier devant le siège de l'usine Bridgestone à Béthune en soutien aux salariés. Il faut que tout le monde prenne conscience de cette financiarisation féroce qui nous dévore. Je suis là pour apporter tout mon soutien aux salariés. Tout n'est pas perdu, il faut se battre, a-t-il déclaré. Par ailleurs, aujourd'hui se tient un comité social et économique extraordinaire qui signe l'ouverture des négociations entre la direction locale et les organisations syndicales. De son côté, l'avocat des salariés Stéphane Ducrot, interrogé par La Voix du Nord, estime que le dossier avance très lentement. Je cite « Ça fait 15 jours que la fermeture a été annoncée, tout le monde s'impatiente, la stratégie d'usure ne fonctionnera pas. » Fin de citation. Une semaine qui est chargée pour les salariés de Bridgestone, puisque mardi, 3 représentants syndicaux du site se sont rendus à Rome, au centre technique de l'entreprise, pour un comité européen extraordinaire. En présence de la direction, une réunion qui, d'après Stéphane Ducrot, n'a été qu'une pure formalité. D'autres informations devraient tomber ce jeudi. Enfin, pour être tout à fait complet sur le sujet, sachez que ce dimanche, une marche est organisée à Béthune à partir de 9h30. Une marche organisée par l'intersyndicale de Bridgestone, mais où il n'y aura aucune pancarte et aucun signe d'appartenance à un syndicat ou à un parti politique. C'est vraiment une marche ouverte à tous et à toutes pour soutenir évidemment les salariés de Bridgestone et dire non à la fermeture de cette usine. Et bien voilà, c'est la fin de cette émission Savoir Plus. Je vous remercie de l'avoir suivi. Dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec le Flash Info National. Ce sera suivi de Cinérama sur Radio Plus. Très bonne fin de matinée et très bon appétit à toutes et à tous.